Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 14 janvier 2020. Le trade deal est devenu le dopage de la finance, un peu à l'image des bodybuilders qui se bourrent de produits chimiques pour gonfler et ressembler à Stallone quand il était jeune, ou à l'image des cyclistes du Tour de France qui, moins ils se dopent, plus ils vont vite. Nous, dans la finance, on a trouvé notre drogue, notre anabolisant naturel, le truc qui nous fait monter et monter encore, même si on sait que c'est très très mal, le trade deal. Fondamentalement, il ne s'est rien passé de nouveau. Globalement, on sait que le numéro 2 chinois devrait se pointer à Washington cette semaine pour signer la première partie des accords. Mais mis à part le fait que les Chinois vont acheter pour 40 à 50 milliards de dollars de produits américains, on ne sait pas grand-chose. On ne sait même pas quand, ni quel jour, ni à quelle heure cet accord devrait être signé. On ne sait pas ce qui va se passer ensuite, de quoi seront faits les débats du trade deal 2.0 et les 3.0. On n'en a aucune idée. Par contre, le marché a l'air de se foutre totalement de ce qui peut se passer après. La signature de ce traité commercial est presque considérée comme la pilule magique de la finance. Il signe et ensuite, on ne s'arrête plus jamais de monter. Pourtant, je doute que dans l'accord, il y soit intégré le fait que ceux qui tenteront de vendre des actions ensuite seront immédiatement alignés contre le mur et fusillés sans autre forme de procès. Quoi qu'il en soit, le marché monte sans se poser de questions. Si hier les marchés du vieux continent restaient tout de même un peu prudents, eh bien, ce n'était pas le cas du côté US, puisque pendant que le Dow Jones pagayait toujours pour atteindre les 29 000 points, plus que 100 points à escalader, le S&P 500 et le Nasdaq ne faisaient pas de complexe et utilisaient la théorie de la hausse permanente associée au trade deal pour afficher de nouveaux records insolents, alors que le trade deal en question n'est même pas encore signé. Alors on pourrait se dire que lorsqu'il sera officiellement signé, que Trump nous montrera un bout de papier avec plein de gribouillis en bas de la page, le marché va prendre l'opportunité de vendre la nouvelle, mais c'est même pas sûr. Les forces occultes qui poussent les indices à la hausse semblent avoir totalement changé les règles et ne savent faire plus qu'une chose, acheter. Acheter sur faiblesse, mais aussi acheter sur force. Et puis après tout, le trade deal 1.0, il y aura le 2.0, le 3.0, puis la réélection de Trump, et puis on est dans une année électorale, et en général, on ne baisse jamais lors d'une année électorale, sans compter que les banques centrales sont dans le camp des boules et pas dans celui de ces comptes toréadors. Alors pourquoi ne pas acheter à la fin? Sans compter qu'hier, les Américains ont tout de même déclaré que la Chine n'était plus un pays qui manipulait sa monnaie, contrairement à ce qui avait été dit il y a quelques mois. Tout va bien, tout va presque trop bien. On se croirait presque dans un film de Disney où les gentils gagnent à la fin et qu'ils se marient, ils ont plein d'enfants et ils commencent à rouler en Tesla. Pourtant, même si les marchés ne cessent de monter, même si l'on enquille des records sur des records et que l'on découvre chaque jour des niveaux d'altitude jamais vus, il y a tout de même un oiseau qui est de plus en plus présent, c'est le corbeau. Alors aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir un journal financier et plus se connecter sur un site comme MarketWatch, Bloomberg ou encore CNBC sans tomber sur un type avec un beau costume et une cravate sombre qui nous annonce que ça ne peut pas durer. Dans Tintin et l'étoile mystérieuse, c'était un type avec une barbe, un tambour et une toche blanche qui annonçait la fin du monde via des araignées géantes. De nos jours, ces types en costard, ce sont des types en costard avec des cravates sombres qui nous disent que les arbres ne montent pas au ciel et que tant va la cruche à l'eau, à la fin, elle se casse. En tous les cas, il y a une chose où tout le monde est d'accord, et tout le monde est d'accord avec tout le monde surtout, c'est que dans l'euphorie de ce marché, quand ça va finir, c'est dans l'euphorie, pardon, que ce marché va finir par tourner au vinaigre. La question reste donc, comment on mesure l'euphorie. Est-ce que c'est quand certaines boîtes techno affichent des performances de 100% sur 12 mois? Un peu probable. En 99, on avait fait beaucoup mieux avant de se péter la gueule. Est-ce que l'euphorie, c'est quand votre chauffeur de taxi, votre coiffeur ou alors votre esthéticienne vous donne des conseils boursiers en vous épilant le maillot? Attention, il est important que ce soit l'esthéticienne qui vous épile le maillot et pas le chauffeur de taxi. Si c'est ça l'euphorie, eh bien, on n'y est pas encore, puisque pour le moment, les bruits qui courent dans la rue, c'est plutôt « Ouais, d'ivoire, c'est quand qu'on se pète la gueule sur la bourse de bleu ?» Et puis, si on regarde les graphiques qui deviennent verticaux et que l'on compare avec le passé, on voit assez rapidement que l'on peut faire encore mieux. Non, pour l'euphorie, il faut que tout le monde soit dedans, que les méfiants craquent, que ceux qui disent que on ne les y reprendra plus finissent par acheter un ETF sur la tech, et ceux qui prêchent la fin du monde depuis 5 ans se fassent tatouer un boule sur les fesses pour recouvrir ce foutu ours polaire qui est, de toute façon, voué à disparaître. Quoi qu'il en soit, on monte, et quoi qu'il en soit, plus on monte, moins on a d'oxygène pour réfléchir, et plus on peut lire les appels à la prudence, les mises en garde et les statistiques qui disent que ça ne peut pas continuer parce qu'on est trop optimiste et que comme ça ne peut pas durer. Sauf que ça dure et que rien ne semble pouvoir déboulonner ce marché. J'avoue que même moi, je commence à douter et que je trouve tous les matins depuis 3 jours que mon indice favori, le Philadelphia Semiconductor Index, a mauvaise mine. Alors, grippe hivernale temporaire ou est-ce qu'il a chopé la variole? Tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien de nouveau, que le trade deal va se signer, que le marché est tout content et que ça monte chaque fois un peu plus et que le jour où ça va vraiment baisser, non seulement vous ne pourrez pas dire que l'on ne vous avait pas prévenu, quand je dis on, je parle de la communauté du monde merveilleux de la finance, et quand je dis ce qu'il y a de bien, c'est que l'on sait que chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus du jour où ça va baisser. Enfin, tant qu'on n'a pas inventé pour de vrai la DeLorean qui peut nous faire aller dans le passé. Pour le reste, l'or est à nouveau has-been jusqu'à la prochaine attaque de drone, tout comme le pétrole. Le baril est à 58,08 et l'once d'or se traite à 1538 $. Ce matin, l'Asie est partagée entre le Nikkei qui monte de 0,65% parce qu'il est trop content que les Américains ne pensent plus que les Chinois manipulent la monnaie et le reste. Le Hang Seng et la Chine qui se foutent totalement de ce que pensent les Américains et qui veulent juste du concret et ne font strictement rien en attendant. Pour ce qui est des nouvelles du jour, on apprend que Visa achète une fintech nommée Plaid pour 5,3 milliards, dont 4,9 en cash. La boîte était valorisée à la moitié de ce prix il y a un peu plus de 12 mois. Pendant ce temps, Google frise les 1 trillion de valorisation. Il devrait donc, s'il n'y a pas de crash dans la semaine à venir, rejoindre Apple et Microsoft. Et du côté des spécialistes du rating, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que Boeing pourrait voir son rating révisé à la baisse. Il est vrai que maintenant que le titre a perdu 25% depuis les plus hauts, il est temps de venir dire que c'est de la daube, un grand classique dans le monde fabuleux des ratings obligataires, une compétence dans l'anticipation et une vision hors du commun. Dans les sujets passionnants, on apprend aussi que la reine d'Angleterre s'est mise d'accord avec son petit-fils. On ne sait pas si le fait de quitter le navire va lui coûter son immortalité, mais le peuple est soulagé. Autre sujet de préoccupation sur l'ancienne île européenne, l'étau. Hier, la livre était sous pression à cause qu'il se pourrait que la Banque d'Angleterre baisse les taux. Dans tous les cas, les experts ont identifié des signes avant-coureurs qui ne font aucun doute. Hier, Carney a pris 2 bières à la place d'une et ça ne trompe pas. On retiendra encore que selon un ancien du team Obama qui connaît bien le Moyen-Orient, jamais le régime iranien a été aussi proche de l'effondrement. En tous les cas, si les ayatollahs quittent le navire et vont se planquer à Crans-Montana, Trump aura réussi un truc avec un seul drone que pas un de ses prédécesseurs n'aura même pu rêver. Dans un tout autre domaine, après les chiffres pourris que Ford a annoncés hier en Chine, les ventes totales de voitures sur place sont en baisse de 8,2% pour 2019. On parle de sinistres dans l'industrie locale, pas grave. Musk leur a implanté une usine de voitures électriques, ça devrait tout régler. Côté chiffres économiques, il y aura aujourd'hui le CPI aux USA et c'est à peu près tout. Par contre, il y a aussi Kuroda qui va parler. Le gouverneur de la Banque du Japon ne devrait rien annoncer de transcendantal comme depuis 20 ans, mais on ne sait jamais. Par contre, au sujet des résultats trimestriels, c'est parti pour de bon puisque cet après-midi, nous aurons les publications de Delta, Citigroup, Wells Fargo et JP Morgan. Pour le moment, les futurs ne font rien, mais la prudence reste de mise à quelques heures ou jours, on ne sait pas trop, de la signature du trade deal. Il me reste donc à vous souhaiter une très belle journée et on se retrouve demain pour de nouvelles mises en garde et de nouvelles angoissantes.